France Musique.
Le journal, Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Même au Liban, les subventions de la banque centrale du pays ne sont pas éternelles. Dans 2 mois, si aucun plan d'urgence économique ne vient prendre le relais, elles ne permettront pas d'acheter des produits importés comme le carburant, mais aussi la farine ou encore les médicaments. Ce constat alarmiste est signé de Riyad Salamé, le gouverneur de la Banque du Liban. Un diagnostic très pessimiste alors que s'ouvre aujourd'hui une visioconférence à but humanitaire organisée par les Nations Unies et par la France. 4 mois après l'explosion catastrophique, on s'en souvient, dans le port de Beyrouth, Aurélien Colli. Il n'y a d'ailleurs toujours pas de gouvernement en place malgré les pressions répétées d'Emmanuel Macron. Le Liban continue de s'enfoncer dans la crise.
Emmanuel Macron reste engagé et il ne laissera pas tomber. Promesse d'un de ses conseillers de passage au Liban, exaspéré comme le président français par l'inertie des chefs de parti libanais. Il répète depuis 3 mois qu'ils soutiennent l'initiative française, qu'ils veulent aussi un gouvernement d'experts pour mener des réformes, combattre la corruption et débloquer l'aide internationale. Mais dans les faits, ils n'ont pas bougé, sauf pour des jeux politiciens qui entretiennent le statu quo. Toujours pas de gouvernement, pas de réforme, même l'audit de la Banque centrale demandé par le FMI est bloqué. Résultat, pas de grande réunion internationale pour le Liban, comme Paris l'envisageait à un moment, avec un gouvernement crédible pour récolter les milliards dont le pays a besoin. Mais à la place, cette visioconférence en soutien à la population libanaise, selon le communiqué de la diplomatie française, qui met en avant la participation d'ONG et de représentants de la société civile, des acteurs qui attendent aussi d'Emmanuel Macron qu'il avance sur la mise en œuvre de sanctions internationales contre les principaux dirigeants libanais accusés de prendre le pays en otage.
Un plan de relance pour soutenir l'économie américaine affectée par l'épidémie de Covid-19. L'idée est cette fois-ci portée par un groupe de parlementaires, démocrates et républicains. Ils préconisent ensemble de débloquer plus de 900 milliards de dollars pour relancer la machine. Pour l'instant, cette proposition n'a pas l'aval de la Maison-Blanche, toujours dirigée par Donald Trump. Trump, aujourd'hui lâché par l'un de ses proches, le très fidèle ministre de la Justice affirme ne pas avoir constaté de fraude suffisante pour invalider la victoire de Joe Biden. Sébastien Paour nous appelle de New York.
Bill Barr donne son point de vue sur l'élection dans un entretien à l'agence de presse AP et il dit ceci: « Nous n'avons pas constaté de fraude à une échelle qui aurait pu changer le résultat de l'élection. » Et celui qui était jusqu'ici un soutien fidèle du président américain explique que le FBI et le ministère de la Justice ont enquêté, notamment sur des machines qui auraient changé le décompte des votes, le fameux logiciel de l'entreprise Dominion utilisé par la moitié des électeurs américains et montré du doigt par Trump depuis 3 semaines. Le procureur général est clair: nous n'avons rien vu qui puisse le prouver. Une manière de répondre peut-être aux insinuations de son patron il y a quelques jours, suggérant que son ministère et le FBI puissent être impliqués dans la fraude. Le seul, en tout cas, à avoir pris position comme ça publiquement à ce niveau de responsabilité pour dire que l'élection s'était déroulée sans fraude, et donc pour contredire les accusations du président américain, c'était le patron de l'agence chargée de la sécurité et de la cybersécurité du scrutin, Chris Krebs. Il a été viré d'un tweet par Trump il y a 2 semaines. On voit mal comment Bill Barr pourrait ne pas connaître le même sort.
C'est une prouesse technologique que viennent d'accomplir les scientifiques chinois qui travaillent pour le programme spatial de leur pays. Ils viennent en effet de poser sur la face cachée de la Lune une sonde qui doit récupérer 2 kilos de roches, baptisée Chang'e 5. L'engin doit repartir pour la Terre dans les jours qui viennent. La Chine a toujours l'intention d'envoyer des astronautes sur la Lune à l'horizon 2030. Apôtre du bicamérisme, le président du Sénat, Gérard Larcher, a donné de la voix hier pour rappeler à l'exécutif et à la majorité présidentielle que la loi s'écrivait et se votait au Parlement et nulle part ailleurs. Référence explicite à l'article 24 sur la diffusion potentiellement malveillante des images des forces de l'ordre. Le texte est d'ailleurs désormais entre les mains des élus du Palais du Luxembourg qui attendent aujourd'hui de pied ferme Jean Castex et ses ministres pour les questions au gouvernement. Stéphane Robert.
Gérard Larcher a pris la parole en ouverture de séance hier après-midi, rappelant à l'ordre Emmanuel Macron et son gouvernement.
Le pouvoir législatif appartient au Parlement et à lui seul.
Il faisait évidemment allusion au texte de loi sur la sécurité globale et au fameux article 24 qui divise au sein même de la majorité et dont le chef de l'État a demandé la réécriture pour lever les ambiguïtés.
Je dois donc rappeler au groupe de la majorité de l'Assemblée nationale que la proposition de loi dont il souhaite travailler à la réécriture partielle a été transmise au Sénat depuis le mardi 24 novembre dernier. Il revient donc au Sénat et à lui seul de l'examiner et de réécrire, si cela s'avère nécessaire, une ou plusieurs de ces dispositions. Tout cela, ça s'appelle le bicamérisme.
Très applaudi, Gérard Larcher, il s'est érigé en gardien du temple et en garant du bon fonctionnement des institutions. Ce faisant, il a voulu mettre en exergue à la fois l'amateurisme dont a fait preuve le pouvoir exécutif dans cette affaire et le peu de considération qu'Emmanuel Macron et son Premier ministre montrent envers les parlementaires.
Des nuages et de la pluie sur de nombreuses régions avec de la neige sur les reliefs des Pyrénées et du Massif central notamment. Il fera beau sur les bords de la Méditerranée, sauf du côté de Nice. Et puis les éclaircies seront aussi bien présentes sur les départements de l'Est de la France. Les températures iront cet après-midi de moins 3 à 11 degrés, Jean-Baptiste Urbain.
À demain, Olivier Denré, dès 7h. Très bonne journée.
À réécouter sur francemusique.fr.